Et après ça, 4 mois chez Boreal. Parce qu'il y
Ok,
avait
ça n'a pas été
la.
si long que ça. Je pensais que tu avais resté une couple d'années chez Boréal.
Non, 2 ans. En bas
Ok.
de 2 ans même, je suis allé là. Puis c'était le fun. C'était un défi super stimulant parce que tu avais une marque qui avait 25 ans aujourd'hui, tu sais. Puis qui a toujours. A jamais eu de tâche à son
Ouais.
dossier. Peut-être parce qu'il n'avait pas pris beaucoup de risques à l'époque, parce qu'il y avait 8 produits, tu sais. Puis quand je suis arrivé là, ben, c'était le fonds de solidarité qu'il avait racheté
Oui.
en juin. Puis les gens qui étaient derrière le projet, Laura, Bernard, Jean, Morin, Bernard et Jean qui sont deux frères. Puis Laura qui est la conjointe à Bernard. Ben, les trois
Ben, très
qui étaient.
familial
Ouais,
encore, là.
c'est très familial. Puis, je veux dire, il n'avait pas nécessairement envie de faire trop de bière. Il faisait quelques nouveautés par année, mais il focusait beaucoup sur la qualité de la bière, sur la fraîcheur de la bière. C'était ça pendant des années. Puis c'est correct, parce qu'aujourd'hui, si je suis comme je suis
C'est des
grâce à
gros
eux,
amis.
c'est-à-dire que je suis sensible à la fraîcheur, c'est grâce à la
La touche boréale.
culture boréale, de
OK.
faire attention à la fraîcheur de la bière. Puis, je suis très sensible à ça maintenant aujourd'hui, puis c'est un leg de la gang. Puis je suis allé là, puis il y avait des nouveaux défis de justement un peu revitaliser un peu la marque, revenir un peu dans le. Retoucher le buveur qui arrive à 20 ans, 25 ans aujourd'hui, tu sais. Mais que, tu sais, que le buveur d'il y a 25 ans, ben il est rendu à 50, peut-être 60. Fait qu'il prend peut-être moins de bière, puis. Boréal a toujours été là dans des situations très proches des jeunes, comme l'université, le cégep, on se rappelle tout. Ben, moi, j'ai pris
Moi, ben,
des 5 à
c'est
7 de
mon
Boréal, là.
université, c'est faite à Boréal.
Exactement. Fait que, tu sais, c'était une bière qui était pas trop chère. Mais il manquait, ce qu'on voulait faire, c'est remettre en valeur le savoir-faire créatif de Boréal, tu sais. Fait que la stratégie était basée là-dessus pendant l'année et demie du mois que j'étais là.
OK.
C'est-à-dire que c'était qu'il fallait, premièrement, mettre en valeur ou aller chercher un brasseur de talent sur le marché, qui était Gabriel Dulon, en l'occurrence, aujourd'hui, qui est un super de beau brasseur, bon brasseur, puis il est super agréable à travailler avec. Puis moi, on avait bien du fun à créer des bières, mais c'est ça,
C'est-tu à l'époque de la Nocturne puis de la
oui,
Monarque, ces
c'est
affaires-là?
ça,
OK.
oh, ouais, la Monarque, la Rouquine, qu'on avait lancé une espèce de coffret, la collection, que je m'appelle, la collection Boréale. Puis ça, c'était super cool, pour vrai. Puis, donc, ça n'a pas nécessairement eu le succès espéré. Je pense que ça a fait un beau clin d'œil au retour aux sources créatives de Boréale. Mais ce qui a vraiment mis ça à map, c'est la gamme épisode. Fait que ce que nous, on appelait la gamme bêta à l'époque, avant je quitte, qui a
OK.
été revampée par LG2. C'était la gamme épisode là, qui a vraiment mis Boréal sur la map,
Puis
selon moi, là.
là, ça
Puis
l'a
que là, ils ont
revitalisé une
créé.
marque au complet.
Exactement.
C'est beau de voir à quel point. Mettons, la microbrasserie, on va dire, je pas jugé, mais elle n'est pas nécessairement vers Boréal.
Non.
Puis bon, la Nord-Est qui marche partout dans toutes les bars, t'en as. C'est la première question que tu poses, as-tu de la Nord-Est? C'est quand même intéressant, là.
Exact. On ne se cachera pas qu'il y avait des stratégies derrière ça pour justement s'assurer qu'on puisse revenir. Mais ils ont mis beaucoup d'investissements sur comprendre le buveur. Écoute, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, beaucoup de focus group, beaucoup de déplacements, beaucoup de.
Ah
Fait
ouais.
que, tu sais, ça a été super formateur pour moi. J'ai super apprécié cette époque-là. Mais dans mon cœur, il y avait toujours quelque chose qui avait un feu, qui datait de 20 ans, qui disait que j'allais partir quelque chose, j'allais faire quelque chose selon moi. Puis,
L'entrepreneur qui shake en dedans, là. Faut que je
Ouais,
fasse de quoi, là?
puis tu sais, si j'arrivais à 30 ans, 2 enfants, une famille, si ça, puis là tu te dis, ben, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, tu sais? Où c'est que je veux aller, puis qu'est-ce que je veux faire les 10 ou 15 ou 20 prochaines années de ma vie? Puis tu sais, selon moi, j'avais fait le tour avec justement mon épisode de Boris, de Boréal, de toujours faire les mêmes choses, tu sais. J'étais en charge du marketing au Québec de ces marques-là. C'est cool, mais. À un moment donné, je vais passer à autre chose, tu sais, je veux évoluer. Puis est-ce que j'avais envie d'évoluer dans un cadre d'une autre entreprise plutôt que de bâtir la mienne, puis de vivre les sacrifices qui viennent avec, parce que c'était pas mal ça aussi, là, avec 2 enfants à l'époque, rendu 3 aujourd'hui. Fait que c'est quand même des gros choix à 30 ans de dire que je m'en vais, je quitte, puis tu sais, en fait c'est 32 ans, excuse-moi, je me trompe des dates des fois, mais à 30 ans, jusqu'à 32 ans, j'étais chez Boréal, 32 ans, je quitte Boréal pour penser à, ben, en fait, pour commencer à cogiter à qu'est-ce que je veux faire dans la vie, premièrement, parce que j'avais l'option de prendre l'entreprise familiale de mon père, qui était 44 ans dans les bearings, pièces de camion, ce qui est pas vraiment, pantoute mon créneau. Mais j'avais envie de reprendre un peu le flambeau, puis surtout de il y avait des belles opportunités là-dedans, puis il y a pas beaucoup de joueurs dans ces créneaux-là, puis il a monté une belle entreprise, puis malheureusement c'est ça, c'est il y a quelque chose qui a pas fonctionné dans tout ça. J'ai pas voulu embarquer au final, puis j'ai décidé d'embarquer en décembre 2015 à fond dans mon projet, de dire que moi je veux faire un projet de bière. C'est ce qui me rend heureux dans la vie. Parce que je pense que faut que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Mm-hmm. Puis moi, c'était la bière. C'était la communauté de bière. C'était. Je me sens bien là-dedans. Je me sens bien. Puis pas parce que je suis dans une zone de confort, mais je me sens bien. C'est comme. C'est ma passion.
C'est
la bière.
Des fois, c'est le sentiment de cohérence. Là. Ta vie, c'est quoi versus qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis tu fais comme. Là, je suis à la bonne place, puis tu le sens que t'es sur ton X tout le temps. Quand tu te lèves le matin, puis t'es sur ton X, c'est le début de quelque chose. Là.
Exact. T'sais, tu te lèves le matin, puis t'es pas... t'es super bien dans ce que tu fais, mais même, tu sais, là, ça vient avec son lot de sacrifices, puis de petits stress, là, mm-hmm. l'entrepreneuriat. Mais premièrement, c'est le stress financier. Deuxièmement, ben, c'est le stress qui tu te dis, ben, il va-tu avoir de l'argent, assez d'argent sur la table
la pour crise payer, de panique de l'entrepreneur.
Ben, c'est normal. Puis, mais il y a l'autre côté qui est tellement stimulant qui te dit que je ne reviendrai jamais en arrière. Là. T'sais? Mm. C'est comme le fait de ne pas avoir d'enfant. Tu te dis, je ne veux pas d'enfant, mais quand tu en as, tu dis, je ne reviendrai jamais en arrière. Tu sais, tu es tellement bien avec ce sentiment-là que tu dis que. Tu dis qu'à un moment donné. Bref, je suis super à l'aise là-dedans, mais c'est ça. C'est des défis chaque jour. Chaque matin, tu te lèves, il y a un défi. Puis c'est correct parce que ça te stimule à te lever puis à dire je vais foncer puis je vais le faire, tu sais, fait que...
Je pense qu'on est prêt pour commencer ça.
Ouais.
Ouais. Fait que Olivier Bouvrette.
Yes.
Yes. Bienvenue à Sans Prétention.
Salut.
Salut. Brasseur de chez Brasseur Vagabond.
En fait, là, je préfère dire fondateur parce que le brasseur officiellement, c'est Nicolas Lavoie.
OK.
Qui est mon brasseur officiel. Puis j'aime mieux mettre les choses en perspective.
Donc, fondateur de la brasserie Vagabond.
Exact.
Qui est une bière des microbrasseries qu'on peut retrouver un peu partout dans toutes les épiceries présentement.
Oui,
je t'ai vu dans le métro IGA, je t'ai vu chez Peluso, toutes les bières spécialisées, évidemment, ils t'ont déjà.
Oui, en fait, on est dans les spécialistes depuis 2017. Puis cette année, ben, on a changé de distributeur qui nous a apporté. Un pied à terre un peu partout au Québec, puis c'est une grande fierté, puis je suis super content d'être au Saguenay, d'être en Gaspésie.
De combien de points de vente tout d'un coup?
J'ai pas eu le temps de faire le décompte. On m'a dit que j'ai passé quand même à vitesse grand V, mais je suis passé de 175 points de vente à pas loin de 700 points de vente en une année.
C'est hallucinant.
Ouais, ben c'est un gros distributeur avec qui je travaille. Qui est déjà un peu partout au Québec pour d'autres marques de bière, mais aussi d'autres marques comme l'OSK, des trucs comme ça.
OK.
Fait que ça nous permet d'utiliser un réseau qui est large, avec une équipe de représentants qui est assez nombreuse. Là, je te dirais, là, sont autour de 50.
Pour le Québec. 50 personnes.
Oui, oui, ils ont un réseau alimentaire.
C'est 50 personnes qui roulent 40 heures semaine pour vendre des produits un peu partout.
Exactement. Ça
fait du monde, là.
Ouais, puis moi, avant d'embarquer, puis de faire justement ce que je vais t'expliquer dans mon histoire tantôt, avant d'embarquer avec la nouvelle brasserie, qui eux travaillent avec ces gens-là, ben, je connaissais pas vraiment la force de frappe de ce distributeur-là, puis c'est comme hallucinant aujourd'hui. Fait que oui, très fier d'être un peu partout au Québec.
Yes.
Puis que ça roule bien. Je suis content. Fait que, mais c'est ça, ça vient avec son lot de...
C'est le lot de risques, puis le lot de stress, puis de... Tu vois qu'eux autres, ils doivent... Un distributeur, comment ça fonctionne, c'est que ça achète toute ta bière d'avance, puis eux autres, après ça parle à IGA de dire, hey, t'en veux combien?
Ils sont en consigne dans leur entrepôt. Eux autres, ils ont 4 entrepôts au Québec.
OK.
Fait qu'ils dispatchent en fonction de la demande. Fait que ce soit en Gaspésie, à Québec, ici à Montréal, ils en ont... Boucherville, puis l'ouest de l'île de Montréal, ils en ont 2. Fait que...
OK.
Puis eux autres, ils ont un réseau X de temps de clients. Puis oui, à chaque fréquence de 1, 2, 4 semaines, ils vont passer puis ils vont dire qu'est-ce que vous avez besoin. Puis
OK.
puis nous autres, on a des politiques.
Puis toi, t'as déjà tout vendu d'avance, fait que t'as plus ce stress-là d'approcher métro, de faire « Je suis passé chez vous tantôt, j'ai vu qu'il manquait telle affaire, vous besoin de... »
Ben c'est ça, moi j'ai appuyé cette partie-là. Ce que je faisais l'année passée, puis je stressais avec ça. Cette année, je vis pas ça. Je vis d'autres stress, par contre, là. Mais celle-là, cette partie-là, je laisse... Tu sais, dans la vie, chacun son métier. Fait que chacun... C'était pas mon métier d'être distributeur de bière. Okay. Clairement pas. Fait que je roulais avec mon petit Sorento à l'époque, en 2017. Fait que les barils puis les caisses, il y avait une limite, là, tu sais, à pouvoir livrer. Mm. Mais sinon, là, j'ai des gros camions, puis ils gèrent leur affaire, puis moi, j'ai plus besoin de gérer. Moi, ce qu'il faut que je gère, c'est vraiment juste la demande, puis gérer mon marketing, gérer mes... ce que je veux faire
dans le futur. T'es rendu avec la job cool.
Ouais, ben, c'est ce que je voulais, c'est ce que je suis bon dans. Fait que, tu sais, dans la vie, tu peux te dire, ben, je peux être touché à tout, mais pas être bon dans tout. Mais si tu peux faire dans ta vie ce que t'aimes, ce que t'es bon, ben, tu le fais. Fait que, nous, on est bon dans la créativité, parce que je dis nous, on est moi et Nicolas Lavoie, mon brasseur. Fait que.
C'est l'histoire de deux personnes uniquement, dans le
fond. Ouais, c'est l'histoire de deux personnes. Deux personnes, pas mal à temps plein dans le projet depuis. Ben, moi, en fait, je suis dans le projet depuis 2016. Nicolas, il a embarqué, vers la fin janvier, là, début février.
OK, ça c'est tout récent.
Ouais, exactement. Fait que lui, il a embarqué dans l'eau, mais il était déjà brasseur chez Brasseur MT où est-ce que je travaillais avec. Fait que il y a des bonnes collections, mais je travaille surtout avec René aussi, qui est le propriétaire de la Brasseur MT. Fait qu'on parce que moi je suis pas un brasseur industriel. J'ai pas cette expertise-là d'être un brasseur industriel. Je comprends la création de bière. J'en ai brassé des bières, j'en ai mopé des bières, mais c'est ça. C'est que moi, ma vie, c'était pas de passer ma vie entre quatre murs. C'était de passer ma vie à l'extérieur de la brasserie. Mais de comprendre aussi la réalité, qu'est-ce qui se passe en arrière. Puis on va comprendre dans mon histoire aussi qu'il y a eu une fermeture d'usine. Fait que tout ça, qu'il y a mes raisons pourquoi je veux pas de brasserie pour l'instant. Je dis pas que j'en veux pas dans l'avenir. Mais en même temps, ça reste que mon modèle, même si je suis brasseur de malt, je suis moins parce que je suis affilié à une brasserie aujourd'hui. En fait, je suis pas affilié. Je travaille en collectif avec eux aujourd'hui. J'ai pas nécessairement le goût d'avoir une brasserie
à gérer
les trucs qui pètent, le filler, bref.
Mais la façon dont tu fonctionnes, toi, c'est t'approches une brasserie, tu fais « Hey, j'aimerais ça, j'ai telle recette que j'aimerais ça faire chez vous ». Combien tu me charges, mettons, pour que je loue tes cuves ou des trucs comme ça?
À l'époque, c'était comme ça.
Ça a changé?
Oui, parce que ça devient un peu une gymnastique opérationnelle de fou. Faire plusieurs collaborations. Mm-hmm. Parce qu'il y a toutes les règles de facturation, inventaire, qui sont dans chacune des brasseries. Fait que t'imagines, si je fais... C'est ce que j'ai fait depuis le début, j'ai fait plusieurs collabos. Fait que je devais vendre pour l'autre brasserie, avec son système de facturation, avec son distributeur. Fait que t'imagines la mécanique, j'étais tout seul. Fait que c'est plus difficile aujourd'hui. Puis moi, j'ai envie de bâtir... tu sais, je regarde ce qui se passe dans le marché brassicole. Puis tu sais, on est passé, comme je t'expliquais, de 35 à 200, plus de 200 brasseries. Ben, à un moment donné, il y a tout le lot de dire qu'on veut peut-être plus... Travailler avec certaines brasseries qui ont envie de grandir ensemble, en unité, en union... Puis ça commence tranquillement. T'sais, on voit Schlag qui fait du contract brewing, mais qui rapatrie des marques ensemble ou des brasseurs ensemble pour justement dire, regarde, on brasse, on administre, on vend, on distribue, on le fait tout ensemble. T'sais? Mais nous, ce qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment un collectif à valeur engagée, valeur sociale engagée. Fait qu'il y a un petit côté super intéressant dans cette union-là qu'on est en train de bâtir cette année. Mais je reviendrai un petit peu plus tard, mais... Bref,
On va tout de suite retourner à l'origine.
Oui.
T'attends qu'est-ce qu'on va se parler, puis on va s'en parler. Brasseur Vagabond, tu m'avais parlé de Orval, comme quoi ça avait changé ta vie d'une manière ou d'une autre.
Oui.
Veux-tu m'expliquer ça, puis après ça, on embarque dans c'est quoi Brasseur Vagabond en tant que tel?
Ben, Orval, non. En fait, je te dirais, c'est surtout que ça a été une belle épisode dans ma vie, parce que c'est là où est-ce que c'est la première bière que j'ai partagée avec mon amoureuse.
Okay.
C'est des premières bières que moi je suis tombé en amour avec, tu sais, fait que c'est des bières qui étaient plus recherchées à l'époque aussi parce qu'il y avait moins d'offres pour nous à l'époque, là, tu recules il y a 15 ans, ça fait quand même 15 ans que je suis dans ce milieu-là, fait que c'est des belles bières que tu trouvais pas nécessairement, puis que quand tu t'abandonnais à ces styles de bières-là, ben, tu découvrais vraiment les complexités, puis c'est là que tu découvres un peu Ouais, moi, c'est ça. C'est cette bière-là, c'est dans ces styles de bière-là que je tombe en amour avec. Puis après ça, ben, plus tu évolues dans la vie, plus ton palais change, plus l'amertume rentre en ligne de compte.
Parce que là, c'est ça, moi, tu parles de bière belge, tu parles de bière belge, mais t'en as pas. T'en as pas sorti encore.
Ben oui, j'en ai une. Soleil Levant. C'est sur une base de levure belge.
Ok, ok, oui, oui.
C'est une... Fait qu'on est sur une base épicée.
Une blanche.
Une blanche. Une blanche de. En fait, avec d'inspiration belge. Mm-hmm. Fait que. Ouais, c'était les premières bières. Je pense que la plupart des Québécois qu'on retrouvait à SAQ trippaient sur les bières belges, les bières vieillies, soit avec certaines levures. Ouais, exactement, ouais. Tu sais. Fait que. Mais des bières bien faites, qu'on retrouvait pas nécessairement ici au Québec, où il y avait des balbutiements de nouvelles bières qui sortaient de ce style de bière-là. Mais c'est ça. Fait que bref, je tombais un peu en amour avec l'importation au départ. Puis, mais tu te dis, plus tu avances dans ton aventure, plus tu te dis, hey, on a des belles bières ici au Québec, puis on a du talent ici au Québec. Fait qu'il faudrait. Puis tranquillement, ben, tout le monde le sait, le sut. Fait que tout le monde a embarqué dans l'aventure
de Unibrew, ça a commencé à peu près là en plus aussi.
Unibrew, t'es le chef de file des bières belges en plus. Ouais. Fait que bière de microbrasserie, mais bière belge. Fait que c'est le palais pour le Québécois a toujours commencé avec des bières plus rondes, des bières plus. Tu sais, qu'on connaît. Fait que les bières belges, Unibrew ont mis ça à map, la microbrasserie. Et puis avec Boréal, puis avec toutes les autres petites microbrasseries qui naissaient à l'époque, les Linox, Cheval Blanc en 88.
Gambrinus.
Fait que tu sais. Fait que bref, on commence avec j'ai commencé avec l'Orval dans ma vie, puis okay. Ça a été un autre tournant parce que c'est la première bière que j'ai bu avec mon amoureuse d'aujourd'hui.
Tu l'as rencontré à quel âge en fait?
Mon Dieu. Ça fait 11 ans. Ah, c'est des amis communs. C'est souvent ça qui arrive, hein? Des amis communs. Puis l'université, là, puis on.
Ok.
C'est ça. Fait que,
ça a été du dating d'université. Puis
ouais, après, des amis communs.
Puis vous êtes pas lâchés.
Non. On est ensemble aujourd'hui. 3 enfants plus tard.
C'est hot.
Ouais. On est encore là. Fait que chance qu'elle est là, parce que c'est pas toujours évident la vie de partir son propre emploi, puis de partir
sa propre aventure. Elle a tout vécu des étapes de ta vie en même temps. Là.
Tout. Mon espèce de workaholisme entre de Boris, parce que j'étais super impliqué, puis
après Boréal,
puis après ça, ben là, mon projet. Fait que...
Là, ton 4 mois que tu fais, okay, là, je me pars de quoi?
Ouais, ouais.
Oh,
fait que, c'est ça. Okay. Fait que, où est-ce qu'il n'y a pas d'entrée nécessairement d'argent? Fait que, t'es content d'avoir une fille, une femme comme ça dans ta vie. Fait que...
Tu te connais assez bien pour faire... Il va se passer de quoi, là?
Exactement.
Faut l'écouter.
Exactement. Fait que grâce à elle, ben on est encore... Je suis encore en train de vivre de ma passion aujourd'hui, puis...
C'est pas rien.
Non. C'est très cool, puis je la remercie aujourd'hui. Encore une fois. Elle va être contente.
Elle va être contente, certain. Fait que là, Brasseur Vagabond, né en 2016, en fait, ouais. Hiver 2015, donc on tombe en 2016 ouais. Après. Puis là, ça commence avec... T'as deux bières...
Deux bières.
T'as commencé avec
trois bières. Oui, en fait, j'ai trois bières. Okay. Ouais, j'avais trois bières, j'avais la French Cancan, qui était juste en fût. Fait que dans le fond...
Ok, je savais pas.
Ouais, on est parti en juin 2016 au Mondial à la bière. Tu débarques là, tout le monde te demande, c'est qui lui, tu sais? Tu sais, il y a d'autres mondes dans d'autres industries qui me connaissaient, tu sais. Fait qu'ils sont venus me voir, mais dans l'industrie, personne ne connaissait. Puis c'est correct, je veux dire... j'ai voulu faire ma place comme ça, subitement, d'arriver dans
un festival
quand même assez d'envergure à Montréal. Puis on est arrivé, puis avec trois bières, on avait la Bon Baiser de Prague qui était une Pilsner bohémienne en fait, qui est un style particulier tchèque, qui est un dérivé en fait de Pilsner tchèque. Puis après ça, tu avais une Soleil Levant qui était une blanche de blé avec du yuzu, qui est un petit citron japonais sur une base de
levure belge. C'est déjà... Je veux dire, audacieux, mettons, d'arriver avec une recette complètement différente. Parce que yuzu, il y avait quoi, la Ipon, je pense, qui existait.
Je sais pas, à l'époque. Ouais, il y avait celle-là, mais est-ce qu'il était. Je sais pas si c'était en place.
Il y en a pas des tonnes, là, une bière au yuzu. T'en...
Non, en fait, elle est venue par la suite parce qu'il y avait celle au gingembre en premier.
Ok.
Puis la deux est arrivée par la suite, celle-là avec le fait yuzu.
T'étais le premier à peu près à jouer avec le yuzu
peut-être,
au Québec.
Peut-être, je peux pas te dire, là, je veux pas avoir la prétention d'être le premier, mais de dire que j'offrais quelque chose qui est intéressant sur une levure que tout le monde connaît au Québec, selon moi, une levure belge. Puis la troisième, c'est une French Cancan, qui est une Session IPA. On peut le dire, le thème rousse, la couleur, même si c'est une, j'aime mieux dire ambrée ou une couleur plus ambrée. Fait qu'on est arrivé avec ces trois bières-là. Puis pendant un an, j'ai fait juste du bar, juste du fût. J'ai pas fait de bouteille. Fait que j'étais méconnu, vraiment, à cette époque-là. Puis je focussais vraiment juste sur des petits bars de spécialités. Créer une relation, créer un lien d'affaires, créer une relation amicale. Okay. Puis c'est encore ça que je veux faire aujourd'hui. Puis c'est encore ça qui me fait triper, dans le sens que rencontrer des gens, parler des bières. Puis souvent dans les restos, dans les bars, t'as plus de temps de, justement de parler du produit. Et dans les spécialistes aussi. Fait que pendant un an, c'était pas nécessairement facile les ventes juste en fût.
Ça doit être raide.
C'est raide parce que normalement dans une brasserie, ben on va dire le CAD et le CSP. Le CSP étant les bars et restaurants et le CAD étant épicerie dépanneur. Mais le CAD est plus fort dans une brasserie. Donc quand tu vends dans un dépanneur ou dans une épicerie, c'est plus fort ce volume-là. Moi j'avais pas ça. Fait que j'ai vite constaté que
ça te le prendrait
pas. Ça me le prenait, tu sais. Puis si je voulais être encore debout l'année suivante, là. Fait que en 2017, on a décidé de lancer les trois produits. J'ai gardé French Cancan en fût, mais j'ai sorti Instant Bonheur, qui était IPA américaine, avec Mosaïque Citra comme houblon. Donc c'est ça. Ça a super bien été première année, mais c'est ça. Première année où est-ce que. En bouteille, où est-ce que. C'est ça. T'as des défis, c'est-à-dire que t'as une demande qui est intéressante, qui est forte. Mais c'est pas tes installations parce que moi je suis un brasseur itinérant dans l'industrie.
Itinérant, c'est-à-dire que.
J'avais pas de brasserie. J'ai pas de brasserie. Fait que je collabore avec une brasserie qui était, à l'occurrence, Brasseur Illimité. Avec René, mon ami René, que je salue et que je remercie de m'avoir donné ma chance d'aller brasser chez lui. Donc c'est ça, on a commencé ensemble là-bas. Puis ben écoute, c'est devenu rapidement. Des belles ventes, des belles relations avec les dépanneurs spécialisés, je gérais tout. Fait que c'est-à-dire la facturation provenait de la brasserie, étant donné que j'ai pas le droit de facturer. Fait que je gérais quand même la collecte, je gérais la livraison pour la plupart, à part certains coups de main que Brasseur MT me donnait. Tu gérais l'approvisionnement, tu gérais le service à la clientèle. Fait que je faisais pas mal de choses. Je me levais à 5h le matin, puis je me couchais souvent bien tard le soir pour s'assurer que tout fonctionnait bien.
Le départ d'une entreprise, là, c'est hallucinant, le temps que ça demande. C'est plus que le travail, parce que les choses avancent à petits pas tout le temps.
Oui, puis t'as pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau financier, parce que t'essaies de faire le plus possible avec l'argent que t'as. Puis avec les, tu sais, j'avais des belles ventes, mais j'aurais pu en vendre encore plus. Mais le temps de se faire payer, c'est toujours une question de liquidité, puis de, tu sais, je fonctionnais par prévente, fait que, tu sais, de dire, ben, j'appelais mes magasins, dis, ben, j'ai tant de caisses, combien t'en veux, tu sais. Puis pour bâtir une relation avec un nouveau produit que pas nécessairement tout le monde connaît, ben, tu commences avec des petits volumes, fait que, une caisse par-ci, une caisse par-là, mais tu bâtis la confiance. Puis tu bâtis une clientèle aussi qui veut te suivre dans cette aventure-là. Puis ça a été une belle méthode pour moi d'introduire. Puis je voyais que le volume grandissait, mais que j'avais pas nécessairement les espaces nécessaires pour brasser. Puis peut-être pas nécessairement la liquidité aussi pour pouvoir faire le tout. Parce que j'avais déjà emprunté pas mal pour créer la marque, pour créer...
ça doit être...
Tu sais, la liquidité, le financement. Ouais. Fait que, tu sais, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Fait que tu regardes certaines options. Puis moi, je voulais pas être en bouteille au départ. Mais j'y étais pareil, mais...
Ouais.
Ça, j'avais parlé avec René à l'époque. Tu veux pas avoir une encaneuse, tu sais. Lui, ça l'intéressait plus ou moins à l'époque. Fait que j'ai dit, ben, je vais regarder mes autres options. Tu sais, puis j'ai regardé. Puis en août 2017, on a eu des négociations avec une brasserie qui s'appelle la brasserie No Deal. Donc, la marque Baldwin. Qui n'allait pas nécessairement super bien à l'époque. On connaît un peu l'histoire qui se rattache à eux, puis eux autres même aussi font leur mea culpa avec la première génération promoteur qui était en place, qui connaissait pas nécessairement la bière, mais qui avait eu quand même beaucoup d'investissements.
C'est plus des marketing qu'il de faire.
C'est ça, okay. Tu sais. Fait qu'il y avait un gros marketing, gros hype, mais finalement ça a plus ou moins fonctionné. Fait que des rencontres avec ces gens-là qui étaient les investisseurs derrière le projet. Qui n'étaient pas opérateurs, puis qui ont décidé de reprendre en main l'entreprise et qui ont remercié l'équipe de promoteurs qui était là en place au départ.
Okay.
Fait qu'on a décidé de bâtir une forme de partenariat, mais qui allait beaucoup plus loin que le simple fait de brasser sous licence. Tu sais, de dire que je te paye, je m'en vais, je suis content, je fais mes affaires de mon bar. Non, on voulait travailler ensemble, de dire est-ce qu'on est capable de faire ensemble quelque chose de plus grand que juste brasser de la bière? Puis, je pense que ça nous a allumé, puis ça nous allume encore pas mal aujourd'hui.
Mais depuis le départ, tu avais une mentalité de... Ton but en tant que tel avec notre brasseur vagabond, c'est d'ouvrir des brewpubs partout dans le monde.
Oui.
Si... oui. En tout cas, moi, je me rappelle une conversation qu'on avait eue.
C'est ce que je veux faire encore aujourd'hui.
C'est pas fini, là, c'est
sûr. Oh non. Écoute, ça commence, tu sais. Mais c'est sûr que ça prend du temps avant d'arriver à ce plan-là parce que, bon, premièrement, il faut que tu fasses connaître. Est-ce que, vraiment, ça prend des clients aussi de dire du monde qui veulent croire en ce que tu fais, qui aiment ton produit, qui aiment les valeurs derrière le projet, tu sais. Fait que ça prend quand même du temps pour faire ça. Puis, mais chaque chose à son temps va se réaliser. Puis c'est clair que moi, je vais être dans le domaine. Pour moi, derrière Vagabond, il y a l'esprit du voyageur. Fait que c'est clair que dans l'esprit du voyageur.
Ta vie s'est faite au travers de tes voyages aussi.
Ben oui, c'est clair. Fait que, puis je veux surtout amener cet aspect-là dans non seulement l'imagerie, dans l'imaginaire, dans la direction artistique de ma marque, mais je veux l'amener aussi au réel en expérience, tu sais. Fait que c'est sûr que petit à petit, on va vraiment focusser sur ce projet-là de brewpub et auberge de jeunesse. Okay.
Les deux ensemble?
Pourquoi pas? Avec différentes expériences qui vont s'enraciner du local. Fait que je voudrais une ou deux, peut-être trois expériences au Québec, puis après ça, aller ailleurs. Je vise l'Europe.
OK.
Je vise l'Europe. Retourner en Europe.
Fait que mettons, on va dire à deux étages, mettons un bar, premier étage, puis au-dessus, il y a des chambres et des chambreurs qui sont là.
Ouais. Ouais, quelque chose de dans ce sens-là.
Ça fait auberge de Far West, quand même, on dirait.
Ouais, mais tu sais, à la sauce vagabond, un petit peu plus, tu sais, différent, mais aussi responsable puis engagé. Fait que c'est important parce que même cette année, en faisant le changement, puis quand j'ai approché la brasserie, ben quand on s'est mutuellement approché, c'est une brasserie qui est biologique. Puis pour moi, c'est super important parce que il y a une notion d'engagement puis de respect envers son consommateur. Puis c'est parce que, en arrière, là, il y a du travail qui a été fait. Il y a des responsabilités qui ont été prises puis qui sont vraiment importantes. De dire qu'on fait une culture responsable, sans, tu sais, sans pesticides, sans insecticides. Fait que c'est naturel. C'est sûr que bon, on peut en parler longtemps du marché biologique, là, de ses pour et ses contre. Faites en sorte que il y a un niveau d'implication puis de respect qui est un petit peu plus, peut-être plus élevé pour, dans le processus. Okay. Parce que c'est super strict et régi par des organismes
qui sont. Tu montes patte blanche pour avoir tes certifications.
C'est clair. Puis toutes les, tu sais, c'est tout procédural. Puis c'est plus compliqué, le biologique. Et c'est surtout restreint en termes d'ingrédients. Fait que c'est, pour nous, c'était un autre défi de transférer les bières non bio en biologique. Dans la phase de transition. Fait que ça a été un gros travail, je te dirais. Un gros défi pour moi, pour la brasserie, puis pour Nicolas aussi qui
travaille avec moi maintenant. T'as juste eu ça des défis jusqu'à maintenant?
Ben, c'est ça, man. T'as jamais quelque chose.
T'as trois enfants à partir d'une entreprise, là.
Ouais.
Tabarouette.
Ouais.
C'est intense, là, la garderie à
6h. Mais tu fais des choix. Moi, j'ai décidé de travailler, de dire que je ne vais pas négliger les moments que j'ai avec mes enfants le matin, de 7 à 9, puis de 5 à 8. Ça, c'est comme. Je peux pas toucher à ces moments-là. C'est mes moments familiales. Puis c'est un accord avec madame. C'est important de dire que ces moments-là sont destinés à la famille. Mais après ça, ben, c'est sûr que le soir, je travaille. Souvent de nuit aussi.
Ah ben, tu sais, tu dis de 7 à 9 le soir à 9 et 10, tu sais où est-ce que t'es, là? T'es en avant ton ordi, puis...
Ah, 9, des fois à 2h30, 3h, 4h du mat. Puis tu te relèves à 6h15, 6h le matin. Tu repars ton cheminement. Ben, t'as pas le choix parce que tu veux pas négliger l'aspect familial qui est important pour moi.
Ça a-tu été un frein, si on veut?
Non, c'est juste que mon meilleur ami est le café maintenant.
Ouais, c'est sûr.
Mais ça allait évoluer. Depuis 2017, là, depuis que j'ai fait la transition, je commence à retrouver une vie qui est plus normale. Même si j'étais un créateur, puis moi, le soir, c'est là où est-ce que j'ai mes visions, j'ai mes créations, puis c'est là où est-ce que je mets mon plan à jour, je mets mes objectifs à jour, je mets ma vision sur un... Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont me dire « Va pas trop loin, va pas trop vite. » Mais si tu y penses pas, ce que tu veux faire réellement... À un moment donné, c'est ça. Moi, je suis un gars de vision. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé dans Boris, dans Montréal, puis dans Vagabond aujourd'hui. C'est comme ça que je veux travailler. Puis, c'est comme ça que c'est comme ça mon ardeur au travail, c'est je suis discipliné là-dessus, là, tu sais.
Que... si on la question vision, à 20 ans, tu te voyais où? T'étais à l'université en marketing, tu te dirigeais où? C'était-tu déjà vers la bière? C'était-tu de représentation d'une marque? C'était par où tu t'enlignais?
Je te dirais que j'étais déjà focusé sur, dans la vie, je veux entreprendre. Mais je savais pas pourquoi.
OK.
Puis je me disais, la vie va m'amener à prendre un chemin, puis de vivre pleinement ce chemin-là. Puis tu vois, ça a pris du temps, parce que le défi Boris a été pour moi un défi d'intrapreneur. Donc, j'étais payé, j'étais sécurisé dans une business, mais que je pouvais m'exprimer, je pouvais créer à même cette entreprise-là, que je jugeais peut-être un jour que j'allais avoir, que peut-être j'allais pouvoir avoir les bénéfices de ça.
Mm-hmm.
Malheureusement, bon, c'est ce qui est arrivé. Là. La brasserie a fait faillite, mais la marque a été vendue. Puis c'est là que, petit premier deuil, comme si on avait perdu un bébé là, avec ouais. Michel, mon mentor, puis celui qui avait créé la marque Boris.
C'est un grand chose aussi.
Oui, ouais, on se parle encore pas mal. Fait que, mais c'est ça. Puis après ça, ben, la vie t'amène d'autres défis. La vie t'amène à d'autres apprentissages. Puis, c'est ça. C'est Boreal, ça a été un super apprentissage. Pas toujours facile. Parce que quand même, c'est des business qui datent de 25 ans, puis tu peux pas faire trop de faux pas, parce que ça peut être fatal, ou ça peut être néfaste pour le...
Tu fais mal à 25 ans d'histoire. Hein?
Oui, c'est ça aussi. Exactement. T'sais. Fait que... Mais c'était un super de beau défi. Puis c'est là où est-ce que j'ai appris plus sur la production en arrière. Comprendre comment ça fonctionne. Mm-hmm. En échangeant avec Gabriel, avec le directeur de prod. Gabriel, qui est brasseur encore, de Brasseur du Nord, Boreal. Puis donc, t'apprends plus sur comment ça fonctionne, la réalité industrielle. Malgré que c'est pas nécessairement ce qui m'attirait, mais c'est que ça m'apporte beaucoup. C'est un
passage obligé en même temps.
Oui, oui, puis c'est impressionnant cette brasserie-là. Puis impressionnant ce qu'ils ont accompli. Puis j'espère pouvoir me rendre là un jour sans faille comme eux autres. Puis de dire que ils peuvent, tu sais, après 25 ans, là, je lève mon chapeau à ces gens-là parce que ils ont bâti à soi leur front une entreprise, une fierté québécoise en termes de matière brassicole. Puis je pense que toutes les microbrasseries de la deuxième génération... Financées
par le Québec en plus.
Fait... Oui, exactement. Ouais. Clairement. Fait que, puis qui ont toujours resté au Québec. Ils sont encore au Québec. Puis dans le sens qu'ils vendent pas tant que ça à l'extérieur du Québec. Puis ils vivent quand même bien de tout ça. Mais là, aujourd'hui, ils ont passé le flambeau à quelqu'un d'autre. Puis c'est correct. Puis j'étais très fier de faire partie de cette organisation-là.
Mm.
Même si ça n'a pas été facile pour moi en tant que, qu'individu dans cette entreprise-là.
OK.
À cette époque-là.
À ce moment-là.
Okay. Oui. Ça a changé. ça a changé pas mal.
Ça a changé.
Oui.
Mais en même temps, tu es ailleurs, puis tu es encore plus. Des fois, aujourd'hui, l'adversité te fait. Non, moi, c'est pas ça que je veux, c'est comme ça. Puis là, ben, tu le crées. Un 6-7 mois plus tard, tu tombes dedans, puis tu fais que, hey, là, je suis bien. Là.
Exact.
Ça avance.
Ben, c'est ça. Puis c'était le défi, justement, tu dis l'adversité, de dire que pas tu lâches. Tu lâches un petit peu, là, tu lâches la pédale
d'accélérateur. Ça peut être fini.
Ouais. Ben, ça peut être difficile de remonter. Puis, ça veut pas dire que c'était très facile pour moi, mais il y a eu des moments d'accélération, d'un petit peu de pesage de frein. Puis après ça, ben, quand tu vois des opportunités super le fun, tripantes, comme je vis aujourd'hui, tu y vas à fond. Puis surtout qu'on est en train de se créer une équipe le fun dans cette brasserie-là. Puis dans cette aventure-là, là, j'ai Nick qui vient de m'accompagner depuis 2018. Mais pour moi, j'ai pas une entreprise de brasserie, mais plus de brasseur. Fait que pour moi, la vision, c'est je veux qu'il y ait des brasseurs, je veux qu'il y ait des individus, des humains qui veulent se réaliser au travers de mon véhicule ou de mon entreprise. Mais j'ai envie qu'ils se réalisent, qu'ils réalisent qu'il y a des défis. Mais il y a aussi des super de belles opportunités. Puis eux autres, à la base, des brasseurs, ce qu'ils veulent, oui, il y a le clérical que j'appelle, c'est-à-dire le brassage et
tout l'aspect,
c'est ça, l'aspect technique dans la brasserie, mais il y a un aspect très créatif qui est, je pense, la plus grande motivation de plusieurs brasseurs. mis à part qu'ils veulent toujours offrir une bière de qualité et de constance, tu sais, qui est constante. Fait que c'est ça qui est important pour eux. Mais moi, si je suis capable d'amener un véhicule qui permet de collaborer avec plusieurs brasseries dans le monde, c'est ce que je veux leur offrir, okay. De dire qu'ils peuvent voyager, parce que le voyage est super important pour moi. Puis ils peuvent créer des bières, créer des relations, créer une famille de qui est déjà une famille brassicole, mais créer une plus grande famille à l'échelle okay. mondiale. Mais c'est ce que je veux, moi. C'est de dire que je n'ai pas nécessairement de brasserie pour l'instant, mais qu'éventuellement, je vais avoir un pied à terre, peut-être une carte de visite pour la marque avec une brasserie, un okay. pub, puis auberge de jeunesse, là, qui va être un peu à la sauce.
Ça, c'est... J'ai hâte de voir ça, là. Mais ça s'en vient, ça me semble.
Ça s'en vient. On travaille sur un projet, parce que, tu sais, je te disais, j'ai 1 à 3 projets au Québec. Le premier projet, c'est plus local, chez moi, qui okay. revient, qui est à Notre-Dame-de-l'Île-Perrault, qui est à côté de Vaudreuil.
OK.
dans l'ouest de l'île de Montréal, okay. qui a pas beaucoup de brasseries. Il y a des petites brasseries qui pop un petit peu, là. T'as Castor, bien évidemment. T'as Pointe-Claire, il y a la microbrasserie La Brosse. Il y a mm-hmm. Chalim qui fait durer à Mercier, mais qui est en arrière, sur la 30. Fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose dans ce secteur-là. Puis moi, c'est un caractère qui est plus communautaire que je veux amener là-bas, mais qui fait partie des racines de vagabond, mais qui n'est pas nécessairement vagabond. Bref, je t'expliquerai ça un moment donné autour d'une bière.
Ben oui.
Mais je vise 2020 pour ce projet-là. Okay. Fait que ça va vite.
C'est 2018, là, puis on arrive à la fin. Là.
On arrive fin 2018. Fait que 2020, on regarde pour installer quelque chose dans l'ouest de l'île de Montréal, pour éventuellement s'en venir Montréal. Puis peut-être Québec, ma ville d'adoption, même si j'ai jamais vécu là-bas, mais toujours un plaisir d'aller à Québec. Là. Fait que, fait que de créer des expériences qui s'enracinent du local. Fait que dans mon coin, c'est très agriculture, pommes. C'est donc naturellement qu'on irait peut-être un jouer dans la carte du cidre, fait éventuellement.
Un branding de cidre, OK.
Éventuellement, mais on va voir. On va voir comment les choses vont avancer. Mais le cidre, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La pomme, en général, on en mange tous les jours chez nous. Les enfants, ils capotent sur la pomme, ouais. Fait que moi aussi. Puis moi, j'habite à côté d'un champ agricole. Fait que c'est super stimulant pour moi de ce côté-là. Puis de dire que je peux avoir un pied local, puis je peux avoir une fierté locale d'encourager les gens de ma région, puis de créer des emplois éventuellement là-bas. C'est quelque chose que je vise énormément.
Mais c'est dans le... OK. Fait que... Puis là, après ça, mettons, on dit t'as trop brew pub au Québec.
Oui.
Après ça, tu t'en vas en Europe. Puis là, ben, c'est les mettons, le brasseur de Montréal n'est pas le même brasseur que le gars de Québec.
Normalement, c'est... non. Ça serait pas le même.
OK.
Ça serait pas le même. Mais ma ça vision là-dedans, c'est que il y aurait tellement de compétences brassicoles dans l'entreprise que je veux bâtir. On veut être une petite structure très ligne, mais qu'on a les bonnes personnes avec une bonne attitude, tu sais, qui ont le savoir-être et qui ont le savoir-faire aussi. Okay. Qui sont sont super agréables. Puis qui sont compétents dans ce qu'ils font, puis qui sont créatifs dans ce qu'ils font, ben c'est ce que je veux m'entourer. Puis après ça, ben quand on aurait des projets brassicoles, ben ces gens-là, ils vont pouvoir s'exprimer dans ces différents outils-là, ou ces différents projets-là. Tu sais, fait que c'est sûr que dans le projet à Notre-Dame, ben Nick va être mis à contribution, mon brasseur, puis éventuellement à Montréal, un autre, puis à Québec. Ben, je suis capable d'aller chercher
un esprit créateur là-bas.
Ben oui, puis tu veux triper avec nous autres, puis. Tu sais, c'est vraiment ça, une petite équipe très 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 lean, puis qu'on va s'amuser à faire à rendre une fierté québécoise à l'extérieur du monde éventuellement. C'est ce qu'on veut faire.
Qui c'est ambitieux à côté.
Ouais, c'est ambitieux. Puis faut pas avoir, moi j'ai, tu sais, souvent on se limite dans certaines affaires, puis je me suis limité longtemps dans mes visions, mais dans celle-là, je me limiterai pas, puis je veux avoir du fun, c'est ma vie pour les prochaines, ben, je suis capable 25, 30 ans. Ça va dépendre de si mes gars veulent leur prendre la brasserie.
La santé, l'âge et tout ça.
Ouais. Fait que, mais des beaux projets d'expérience brassicole. Puis, projet de voyage.
Mais c'est surtout qui ça aussi, là.
Voyager pour la bière, découvrir les bières. Tu sais, j'ai envie, le coureur des boires, là, Martin Thibault, qui fait le tour du monde pour découvrir la bière, tu sais. Là, pour l'instant, je peux pas me le permettre parce que j'ai pas beaucoup de latitude pour m'en aller, tu sais, au niveau familial et tout. Mais c'est super trippant ce qu'il fait, lui. J'ai là mon chapeau parce qu'il partage avec tout le monde aussi, tu sais. Fait que un jour, j'aimerais ça faire, ça.
Okay.
De manière mais aussi responsable, parce qu'à un moment donné, tous nos projets qu'on fait, ben on crée une empreinte, t'sais, une empreinte humaine, une empreinte de carbone. Fait que si on est capable de réduire notre empreinte de carbone, notre empreinte humaines sur la Terre. Ça va être le défi pour toutes les brasseries, pour toutes les entreprises au monde, de sauver la planète. Là, t'sais.
Sauver. Si on peut la sauver.
On est en mode déjà sauvetage. Il faut faire quelque chose, puis il faut s'engager à le faire. Puis ben moi, j'ai des plans pour aider à faire ça aussi, à ma façon, éventuellement. Parce qu'il y a l'environnement à sauver, mais aussi l'humain, selon moi, à sauver. Puis c'est ce que ça décrit derrière « La vie n'attend pas ». Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie de tous les jours. Qui aimeraient changer quelque chose, que ce soit, c'est pas toujours l'entrepreneuriat, mais qui aimeraient changer quelque chose dans leur vie, qui sont malheureux, dépressifs, ou qui ont envie de changer de situation de vie, qui ont envie de, mais qui prend juste la volonté, ça prend juste une seconde pour tout changer dans sa vie. C'est un peu ce que j'ai eu moi à l'âge de 32, là, quand j'ai décidé de partir mon propre projet.
La vie n'attend pas, c'est on va dire, c'est ton motto, si on veut, là. C'est ton mot d'ordre pour tout. Ta business, c'est-tu arrivé à 32 ans que t'es tombé sur... C'est une citation? C'est quoi
la... C'est Niaiseux, c'est un de mes amis. En fait, un ami que je collabore beaucoup dans ce projet-là, qui est pas à l'intérieur de l'entreprise, mais qui est une personne, selon moi, la plus agréable puis la plus intelligente au monde.
OK.
que je nomme son nom, c'est Pierre Bernard. Merci, Pierre. Ce gars-là m'a amené une chanson d'Ozzy Osbourne.
OK.
Qui disait « Life won't wait ». C'est une tune qui s'appelle « Life won't wait ».
Qui est quand même pesant.
C'est très pesant. Puis j'ai dit, hey, ça me parle. Ça, c'est exactement ce que je veux matérialiser depuis le début. Parce que tu évolues avec ton entreprise, tu évolues en tant qu'humain, mais ton entreprise aussi évolue. Ta culture d'entreprise évolue. Puis c'est ça qu'on veut bâtir. Les gens qui vont venir chez nous, ils veulent changer quelque chose à leur manière. Commencer par nous avant de commencer par les autres. Fait que c'est un processus quand même important de prise de conscience sur soi-même. Puis regarde, Nicolas, ben, il a changé beaucoup de choses dans sa vie là, cette année. Puis il a vécu des diverses situations qui n'est pas facile. Mais aujourd'hui, il est content de où est-ce qu'il est. Puis il est mobilisé pour continuer encore plus longtemps. Puis aller plus loin dans son exercice de réalisation de soi-même aussi. Là, fait que c'est ça qui est
une
cool.
Philosophie. Ce qui est le fun, c'est que tu as comme une vraie philosophie d'entreprise, mais philosophie au sens humain. Là, c'est pas l'entreprise en tant que telle, c'est les humains qui travaillent en arrière.
Depuis le début, c'est l'humain qui est important. Puis même dans le collectif qu'on bâtit, c'est un collectif d'individus et non de marques. Parce que au-delà des marques, il y a des individus. Puis c'est ceux-là qu'on va mettre de l'avant. Puis c'est ceux-là que... Puis non seulement des individus qui sont... Les porte-paroles, comme moi je suis un porte-parole, mais il y a des gens dans la brasserie aussi qui sont des individus, qui des porte-paroles.
Qui ont leur importance.
Qui ont une grande importance. Puis, c'est ça, je te dirais, ça s'enligne vers ça, les projets. Puis, il y a d'autres projets, outre la bière, qui vont s'insérer dans Vagabond éventuellement, mais qui sont reliés à la bière. Fait que, comme je te dis.
Le cidre notamment.
Le cidre, les brewpubs, puis d'autres aventures aussi que je t'expliquerai au micro à un moment donné.
Dans le micro off à un moment donné. Je me demande, est-ce que. Parce que là, dernièrement, de ce que j'ai regardé, dans mes recherches, mes grosses recherches de malade, Nolitour.
Nolinor,
mon Dieu, pardon. Nolitour, c'est une autre compagnie. Nolinor, l'aviation, qui sert maintenant Brasseur Vagabond
et
Baldwin en même temps.
Oui.
Donc, il y a deux bières. Ça, c'est le fun en maudit, là, d'avoir de la bière dans un avion.
C'est super cool. Puis, ce qui est le plus fun là-dedans, là, c'est que c'est leur initiative. Tu comprends?
C'est eux qui sont venus vous chercher?
Serge qui est venu nous chercher, en fait, qui a appelé une autre brasserie qui est Brasseur MT, mais il voulait de la canette. Fait que Brasseur MT avait pas de canette. Fait que bref.
Il a dû s'en mordre les doigts. Surtout que tu avais dit avant, ça tente pas une canetteuse.
Oui, c'est ça. Ouais. Ben écoute, fait que Serge, il nous a appelé. Il disait, écoute, je cherche à encourager le Québec dans nos avions, tu sais, puis d'exporter un peu de faire connaître nos bières du Québec dans nos avions, parce que eux autres sont surtout spécialisés dans le Grand Nord, mais aussi ils travaillent avec d'autres groupes comme les Alouettes, des trucs comme ça. Fait que ça fait connaître nos bières un peu partout, que ce soit ici au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Fait que moi, c'était vraiment cool, c'est qu'avec ce geste-là, c'est qu'on démocratise puis on s'intéresse à la microbrasserie. Fait que pour moi, c'est plus fort ça
c'est un
dire que je vais vendre ma bière dans une compagnie aérienne, à quelle heure je suis très fier, parce que moi, c'est un accord parfait pour Vagabond, le voyage et tout.
Ça rentre total. Là.
Exact. Mais je suis encore plus fier qu'aujourd'hui, on prend conscience que, hey, on va encourager notre Québec, tu sais. Nos artisans du Québec, puis je pense qu'il y a d'autres initiatives qui ont été faites par le passé, mais je sais pas au niveau québécois qu'est-ce qui a été fait, mais je sais qu'il y a une microbrasserie ontarienne qui sont avec Porter Airline aujourd'hui. Okay. Fait que tu sais, il y a vraiment un mouvement qui se fait.
C'est vers le micro, vers le micro.
Ça va être toujours un travail tough parce qu'il y a quand même, tu sais, on regarde l'industrie, c'est 80, entre 80 et 85% de gens qui continuent quand même à boire autre chose que de la microbrasserie. Fait que je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité. Mais nous, à chaque jour, on se bat pour que les gens goûtent à nos produits, qui encouragent notre Québec, des produits de région, issus d'agriculture de la région aussi souvent, tu sais, fait que ce soit le houblon, le malt, on encourage le plus possible. Fait que je te dirais que on est fiers de ce truc-là avec notre nom, mais c'est surtout le fait, c'est le message qu'il envoie à d'autres entreprises aussi d'emboîter le pas.
Fait que, oui, il y a ça. C'est d'encourager un Centre Bell, mettons.
Ben là.
Ouais.
Ben là, il y a trop du diable.
Il y a trop du diable qui a été racheté, mais.
C'est un peu. C'est...
Tu moi, vois ça comment, toi?
Deux visions. T'as la vision de l'industrie, t'as la vision de l'entrepreneur. La vision de l'entrepreneur, je sais quoi. C'est quoi, m'en élever ton. Tu sais, c'est comme 4 ou 5 entrepreneurs qui se lèvent chaque matin, mais qui ont quand même ils ont une super belle marque, ils ont des beaux produits, ils ont une belle usine, ils ont des gens qui les supportent, puis qu'à un moment donné, tu supportes, mais t'es plus capable d'avancer parce que, pour différentes raisons, soit à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, t'as une évolution, tu te dis, ben, j'ai peut-être moins le goût d'avoir le poids sur mes épaules financiers, puis d'avoir un partenaire qui va m'aider. Puis t'as la vision de l'industrie qui était super affectée, puis je peux comprendre parce qu'il y a quand même un commitment de là-dedans de dire qu'on laisse maintenant les grands brasseurs venir jouer dans nos plates-bandes, puis que où est-ce que nous c'est difficile, c'est surtout le fait qu'on n'a pas l'argent qu'ils ont eux pour acheter, mettons, des espaces en magasin, pour acheter des lignes de fût dans des bars.
Ouais.
C'est difficile pour nous, puis là de dire que les acheteurs de Molson ou de là-bas vont pouvoir dire, hey, on a de la micro maintenant. Fait qu'on vient de se faire barrer, encore là, toutes nos opportunités pour vendre notre bière. Fait que c'est un peu dommage, mais tu comprends, mais en même temps, je vois les deux réalités, puis je peux dire, regarde, je suis content pour les entrepreneurs, je trouve ça dommage pour l'industrie, mais en même temps.
L'industrie va sur le. Puis en même temps, il y a toutes les. On va dire, les moyens de pression, les gens qui font comme, il n'y a aucune chance que j'achète ces produits
voilà,
à cette heure.
Voilà. Tu sais, chacun prend son. Ses actions, son geste, tu sais, fait que acheter c'est voter, fait que si tu n'achètes pas, tu votes pas pour eux autres.
C'est tellement ça, là.
Fait que.
J'ai envie de voir tout ce que je mange chez nous, là. C'est long, c'est dur, là. J'essaie de tomber tranquillement, de me diriger vers être végétarien.
Ok.
Mais je suis comme, ah, mon Dieu Seigneur, là, ou même le. Si tu dis vegan, qu'est-ce qui est vegan, qu'est-ce qui l'est pas? Là, il faut que tu cherches, mettons, qu'il y ait une don de telle affaire. Là, je suis comme, ah!
C'est difficile.
À cause de ce petit gros défi. Cette affaire-là, je peux pas.
Un gros défi. Pour ces gens-là qui adoptent ce mode de vie-là. Mais je lève mon chapeau à ceux qui le font.
Ah, moi aussi. Et j'ai le pied sur le break tranquillement. Là, je suis comme, ah, c'est difficile. Tu fais attention. Faut faire attention. Faut, mettons, l'achat à manger des œufs. Tu choisis tes œufs de où est-ce qu'ils viennent.
Oui.
C'est. Au moins, ça, je le vois, puis j'essaie de le faire le plus souvent, mais câline que c'est. Un achat, c'est un vote, mais en même temps, là, c'est tellement facile de voter pour la facilité.
Faut encourager le local, le plus possible. Ouais. Si on est capable, ben, c'est. Garde la plus grande. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? T'sais, on veut encourager le lait québécois canadien avant le lait américain. Mais toute le logo qui peut poser problème, tu sais, le parmalat qui est pogné avec ça, ben tu sais, c'est ça le problème, mais c'est il y a un jeu de transparence, tu sais, il y a comme faut que tu sois le plus transparent aujourd'hui possible, comme tu sais, je reviens mon étiquette, ben moi je marque bio, c'est sûr, il est pas le plus présent, il est quand même en façade, mais après ça tu veux voir tous mes ingrédients, tout est là, tu sais, fait que
il y a pas de secret là,
non, puis tu sais on marque ceux qui sont parce que dans le biologique t'as le droit à 5% de jeu qui est non bio, puis ça c'est le gros enjeu pour nous autres dans le biologique, puis nous autres t'as des malts des fois qu'on utilise en très faible quantité qui donnent une signature ou des houblons qui donnent une signature qu'on n'est pas capable de trouver bio, on a un jeu de 5%, Fait que des fois, on doit utiliser un houblon qui est non bio parce qu'on n'a pas le choix.
Mais c'est une bière bio à 97%.
Toujours au maximum 95%. Gros, dans le sens qu'il est 95% biologique. Mais on fait notre part. Mais c'est surtout le fait des fois que c'est difficile à trouver. Les approvisionnements continus de houblon, de malt. Fait que c'est un peu le défi. Mais notre but, c'est de tomber 100% bio le plus possible, puis le plus rapidement possible.
Ça doit être... Ça doit être tough, ça doit être tellement moins cher. Tu sais, il doit y avoir une différence de prix tellement intense, surtout pour une entreprise qui achète au gros, qui achète.
Ouais, mais tu sais, il y a des bons fournisseurs, mais des fois, tu les connais pas ou t'as pas eu le temps de sécuriser tes ententes. Comme nous, on est arrivé dans l'entente, mais il y avait déjà des mâles puis des houblons sécurisés. Mais c'était trop tard pour nous de sécuriser d'autres mâles pour 2018. Mais que là, on vient de trouver des ententes.
Là, c'est la MAPAC ou c'est-tu eux autres qui donnent les certifications de faire, oui, effectivement, ça, c'est bio?
Ça, c'est en fait, c'est Écocert. Écocert puis Biologie, Canada Biologique, dans le fond. C'est deux certifications qu'on appose sur nos étiquettes, toujours. Puis l'autre, on met un fleur de lys parce que c'est notre appartenance au Québec. Mais c'est surtout ces deux certifications-là qui font en sorte qui d'ailleurs, justement, il y avait des audits d'Écocert, fait qu'ils viennent voir comment ça se passe, la traçabilité des ingrédients, d'où ça vient, les certificats, est-ce que surtout tout est en bonne et due forme, de chaque fournisseur. C'est quand même, c'est super, super complexe, plus complexe qu'ailleurs, mais ça nous permet, nous autres, de dire on est transparent, c'est ça, c'est biologique, on joue pas de game, c'est
comme ça que ça donne la marque, puis les gens veulent suivre, puis après ça, ben,
ouais.
Si toi tu le fais, s'il y a Castor qui le fait, s'il y a Baldwin qui le fait,
oui.
Bon, à un moment donné, c'est un mouvement que tout le monde veut faire. Naufrageur est bio aussi, je pense.
Oui, il y a certaines bières qui sont bio, d'autres pas, je pense. La Schwab est bio, au Saguenay.
Oui.
Fait qu'on est 4-5 brasseurs actuellement. Puis tu sais, quand tu regardes aux États-Unis, il y a 20 brasseurs sur 6000 brasseries, je peux pas me tromper, là. 20 brasseurs qui sont biologiques. Pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup.
C'est pas gagné. Hein?
C'est pas gagné, ça. Mais c'est surtout une... C'est une offre qu'on... C'est quelque chose. C'est un geste de plus qu'on rajoute pour mon buveur. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi. C'était quelque chose pour ma que je jugeais important pour ma famille. Puis pour aussi ce qu'on va faire pour nos buveurs qui sont sensibles à ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est sensible au biologique. Les buveurs sont sensibles à une chose. Le goût. C'est bien beau être bio, puis c'est pas bonne. T'sais. Mais c'est... Elle est goûteuse. Puis en plus, by the way, en anglais... C'est biologique, comme Bose, off biologique, ben, c'est un geste de plus. Fait que c'est quelque chose d'important pour nous.
J'aimerais ça parler un peu de ton arsenal présentement.
Arsenal.
Ben, t'as plusieurs bières à présenter.
Ouais.
D'ordinaire dans la vie, sur les épiceries. En épicerie spécialisée, dans les bars aussi.
Mm-hmm.
T'as-tu des. Là, c'est la dernière que j'ai vue, c'est la creamsicle framboise.
Ouais.
Comment ça sort, cette histoire-là? Ça va-tu bien? T'as un nouveau produit, là, c'est une
nouvelle mise en marché. Ouais, mais en fait, elle est sortie au mois de septembre, juste pour Chambly. En fait, c'est que l'année passée, j'ai fait la même chose, mais avec Orange Creamsicle. Puis c'était comme un running gag, je m'amusais à pitcher des rebelles à l'orange, là, dans un fermenteur. Puis c'est parti de là, c'est parti de... sur un coup de tête.
C'est vraiment un creamsicle orange qui est à la base de cette bière-là?
Ouais, ben l'année 2017, puis on avait lancé pour Chambly. Okay. On s'est dit, on le fait-tu pour Chambly cette année, mais avec un autre saveur, donc avec une autre fruit. Puis c'est tombé framboise, tu sais. Fait que, mais là, c'était le défi de trouver de la framboise biologique. Avec cette quantité-là, parce qu'on a mis quand même pas loin de 825 kilos dans un fermenteur. De framboise.
Ça fait de la framboise.
Puis c'était la framboise qui était hyper bien sucrée, mais aussi il y a l'acidité qui vient chercher ça. Fait que dans cette bière-là, qu'on avait déjà aussi travaillé, on a fait des tests, on fait pas juste à l'aveuglette. On fait des tests, mais quand tu fais des tests batch de 40 litres versus des fermenteurs de. Parce qu'on a des fermenteurs des fois jusqu'à 100 hecto. Fait que c'est 10 000 litres.
Ouais.
Fait, faut qu'il y ait un ajustement qui doit être fait. Puis. Écoute, on a lancé ça juste à temps pour Chambly, fait que dans le fond, c'était sur une base de double IPA, parce que l'année passée, je l'avais fait sur une base de double IPA aussi, fait qu'on fait une double IPA framboise.
Double IPA qui est déjà c'est une bière très amère, un peu plus sucrée aussi.
Oui, oui, exactement. Puis
il rajoute des framboises avec ça.
Puis on a rajouté du lactose, okay. dedans. Pas de vanille, lactose. Fait que on avait fait des tests, puis on n'était pas trop fan de vanille. Pour ce type de recette-là, on n'était pas trop fan de vanille. Ça ne veut pas dire que dans les prochaines, il n'y en aura pas, là. Mais de dire pour cette recette-là, on ne mettra pas la vanille. Puis écoute, c'était une bière qu'on a super appréciée. Chambly, on a fait une version creamer. Fait qu'en un peu comme la Guinness, la Kilkenny, donc en crémeuse, ça a super bien été. Le défi, c'est qu'on ne pouvait pas le reproduire en canette. Donc c'était après un widget avec bref, on n'a pas la technologie pour faire ça. Mais ça s'est pas bien sorti. Puis écoute, en 7 jours, on avait tout vendu les caisses. C'était rendu chez les détaillants, puis la plupart avaient consommé. C'était une bière qui était, je crois, bien apprécié. Il y a eu des gens qui ont, tu sais, dans n'importe quoi, dans la bière, des gens qui aiment pas. Exactement. Puis c'est correct, tu sais. Le but, c'est de s'amuser, puis c'est de créer des choses tripantes. Puis donc, il y a eu ça qui a été sorti. Là, on vient de ressortir notre bière estivale qui est des Marrakech Express.
Oui.
Qui, c'est la dernière brasse qu'on a faite. On la relance juste au printemps prochain pour laisser la place à des bières plus hivernales ou automnales. Là. Fait que, okay. Des prochaines bières qui s'en viennent. Nous, on préfère avoir 3 bières, 4 bières régulières, puis faire plusieurs saisonnières qui s'inspirent d'histoire, de moments ou de saisons. Fait que la prochaine qui va sortir, c'est la French Cancan qui revient.
OK. Parce qu'on l'avait en session épique, t'as commencé.
Mais on l'a tweaké. On l'a rendu en rousse de récolte. Fait que c'est une rousse, tout de même.
OK.
Issue de la récolte 2018 de Houblon Franklin, qui est sur la Montérégie ici. Fait que c'est un houblon qui est biologique.
Okay.
Puis qu'il n'y avait pas en grande quantité, mais on a acheté tout le lot de Chinook, de houblon Chinook de la région. Fait qu'on a pris au complet. Puis c'est ce qu'on va offrir donc pour le temps des fêtes. Il va y avoir un ensemble cadeau qu'on avait fait l'année passée.
Ouais,
qui revient cette année. Mais qui a la rousse de récolte dedans à la place d'un instant de bonheur. Fait qu'on fait juste évoluer un petit peu les bières qui sont dedans. Puis il va y avoir quelques quantités qui vont rester aussi pour vendre à monsieur, madame, tout le monde, ou le spécialiste, là, dans le fond. Fait qu'il y a cette bière-là qui va sortir à 4,3% d'alcool. Super agréable.
On parle de quel mois? C'est-tu la semaine
prochaine? Début novembre. Début novembre qui va sortir. Fait que celle-là s'en vient, puis on sort la bière préférée de Nick, mon brasseur, qui est une brown ale. Fait qu'une brown ale super peintable. Elle va s'appeler Darling, qui est avec une belle rose dessus. C'est super cute. Fait qu'il y a toujours des belles illustrations, puis moi ça m'inspirait ça. C'est un petit caractère très anglais. C'est
une brown ale, c'est de l'Angleterre.
C'est dans le bon temps, puis c'est surtout une belle buvabilité, une bière brune. Celle-là, moi j'aime beaucoup, sa bière-là aussi. Fait que, mais là, c'est Nick qui s'exprime dans ses bières qu'il aime, puis dans ce qu'il veut, puis on s'inspire de la saison, puis ben, c'est ça. Donc ça s'en vient.
Ça va sortir avant la fin de l'année.
Oui, décembre. Début décembre que ça va sortir. Puis après ça, ben, on repart une nouvelle année avec des nouvelles bières. Il y a 5 nouvelles bières qui reviennent l'année prochaine. En fait, il y a des bières saisonnières qui reviennent, mais il y a des nouvelles qui vont apparaître, qui s'inspirent justement encore là de
qui se dirige vers l'aventure. Vers le brewpub.
Une autre aventure.
Wow!
Ouais, on s'amuse. C'est trippant, puis on est sur la bonne voie, puis on développe des belles choses actuellement. Mais c'est ça, à chaque jour il y a quelque chose, puis il faut s'en occuper chaque jour. Je me dis des fois, j'ai-tu le temps de faire d'autres choses? Non, je fais juste ça, moi. J'ai pas le temps de faire d'autres choses. La famille, puis ce projet-là, c'est ce qui me stimule, puis c'est ce qui me passionne présentement. Puis c'est un défi chaque jour, t'apprends chaque
jour. Les enfants, comment ils vivent?
Je pense qu'ils sont pas encore... Ils sont conscients un peu que papa est moins souvent là, mais ils vivent pas nécessairement les contre-coups encore. Ça va être plus à l'adolescence si je suis encore dans ce rythme-là.
Parce que
là,
ils sont dans... C'est 5, 7 et 7, 3 ans?
7 ans, 5 ans et pratiquement 3 ans bientôt, là.
OK.
Fait que c'est assez rapproché. Fait que c'est ça. Ça va être un... c'est ça. Je pense qu'ils vont apprendre de ça. Puis peut-être que si je suis capable d'en sortir un qui va être entrepreneur, ben il va comprendre un peu c'est quoi la réalité. Il va avoir compris c'est quoi la réalité. Quand il voyait pas son papa, puis sa maman qui était toujours là, qui s'occupait des trois.
Ça doit être tough pour toi aussi en même temps.
Ben oui, puis tu sais, ma conjointe qui travaille à temps plein.
Dans quel domaine,
dans le domaine de la santé, fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est pas toujours évident, mais c'est ça. C'est une histoire de... L'entrepreneuriat, c'est pas toujours une histoire d'un seul, c'est l'histoire souvent d'une famille. Puis c'est pas juste une famille, parce que ça, tu sais, pas toutes les gens sont mobilisés pour réussir, pour que... l'individu réussisse, tu sais. Ma belle famille, ma famille.
Ta famille à toi, papa, maman qui sont... est une gardienne.
Ouais, c'est ça. Ils sont loin de la maison, mais quand ils sont là, puis ils sont toujours prêts à aider, que ce soit en temps ou des fois, un petit peu d'argent, toujours le fun. Un petit peu d'argent, toujours le fun au départ.
Un petit peu d'argent. Noël s'en vient.
Pour, non, mais tu sais, je veux dire, quand tu démarres, c'est toujours le fun du love money, là, tu sais, de dire que t'as pas ça emprunté à la banque, puis c'est toujours apprécié quand tu peux te le permettre, parce que c'est pas toujours évident. Puis, c'est ça. On a tous des. On a des belles idées, on a des beaux entrepreneurs, mais souvent, des fois, ce qui limite, c'est les sous.
C'est toujours. Ouais. C'est dans la guerre, les sous, là. C'est dur à trouver. C'est...
puis moi, je vois qu'il y a un effort qui se fait dans l'industrie pour les entrepreneurs à mobiliser certains fonds pour les entrepreneurs. Tu sais, je vois Nicolas Duvernois, je vois. Il y a des choses qui se mettent de l'avant pour encourager l'entrepreneuriat au Québec. Puis.
Puis dans la microbrasserie en tant que telle, là, on est-tu. Le marché en tant que tel, je le connais pas nécessairement, mais es-tu saturé? On est-tu au top? Si tu me disais qu'il y a 85% des gens qui boivent pas de la micro, ça te laisse toujours bien juste 15% de jeu sur le
marché. On n'est pas, non, on est loin d'arriver au top, là. Mais il y a une game qui va jouer, qui se joue déjà, c'est la distribution. Tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de brasseurs qui viennent, mais qui vont focusser sur un brewpub. Premièrement, puis je pense que c'est ça la voie, c'est que ça remplace quelque chose dans les régions qui ne fonctionne plus.
Un brewpub étant la bonne vieille taverne, en fait.
C'est ça. Puis les discothèques, là, puis des affaires comme ça, naturellement, ça ne. Ben, en fait, ça va toujours exister, mais ça va être porté à diminuer en
nombre. Parce que les gens ne boivent plus.
Ben, les gens, surtout, tu sais, ils ont changé leur manière de consommer.
Il y a un auto aussi.
Ben, c'est ça.
Il faut que tu conduises.
Exactement. Exactement. C'est plus comme dans le temps. Tu regardes aux États-Unis, la loi là, non écrite, c'est 50 km. Tu sors jusqu'à 50 km de chez toi pour aller boire une bière. Okay. Fait que, puis en général, c'est la norme pour les brewpubs. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ils ont 330 millions de personnes, de personnes vivant aux États-Unis, puis il y a 6000 brasseries. Fait que, tu sais, t'as un ratio qui est intéressant, mais c'est souvent des brewpubs dans ces 6000-là. Fait que, eux autres, ils remplacent des bars de quartier qui fonctionnent moins. Parce que, tu sais, il y a une vidéo qui pensait vraiment les perrons d'église. Là. Est-ce que les microbrasseries sont les nouveaux perrons d'église ou est-ce que les gens se rassemblent pour l'aspect social? Ben, moi, je pense que c'est ça qui arrive. C'est que les gens sortent différemment. Ils veulent boire moins, mais mieux aujourd'hui. Fait que la caisse de 24, tranquillement, il y a encore des buveurs pour ça, mais ça.
C'est tough de prendre son char après une caisse de 24.
Mais non, mais c'est parce que tu peux plus le faire. Tu sais, si t'es moindrement conscient puis engagé, de dire que je peux faire du mal ou je peux me faire du mal en buvant, trop.
Il y a une pression aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans le temps. T'sais, moi, je me rappelle, moi, je suis Trois-Rivières, fait que je me rappelle au Gambrinus, le brasseur, le propriétaire, en fait, Marc, ce qu'il me disait, c'était que. C'est fou comment c'est le fun en même temps, mais les gens boivent beaucoup moins, puis j'ai tout le temps plein de chars dans son parking en tant que tel, chose qu'il n'y avait pas avant.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a un effort qui se fait de tout le monde, mais en même temps, c'est tough pour un bar de vivre avec ça.
C'est clair.
Fait qu'il y a une discothèque avec un shooter, une bière.
Fais pas d'argent avec ça.
C'est pas ça, là.
Non. Fait que c'est pour ça, c'est appelé à changer, à évoluer. Mais c'est ça, la microbrasserie va subsister si elle fait des brewpubs en région, parce que ça devient un carrefour où est-ce que les gens se rejoignent, puis socialisent, c'est ça. Puis il y a beaucoup le tourisme de bière là, qui se fait. Fait que les gens vont, l'été, ils veulent voyager au Québec, parce qu'ils veulent pas encourager Trump, fait qu'ils veulent voyager au Québec. Ou à l'extérieur, tu sais, mais ils vont aller dans les microbrasseries. La plupart en région vivent beaucoup de ça. La Gaspésie, là, vivent énormément de ça. Puis ça fait 2 ans qu'on me dit que ça explose par là-bas, fait que c'est correct, mais l'hiver, les temps sont durs, tu comprends? C'est plus. Tu sais, j'étais là à Rimouski la semaine passée, puis la plupart des restos, puis des bars, puis des magasins artisanaux, c'était fermé, là.
Le lundi, mardi, mercredi, on est fermé.
Moi-même, ils sont complètement fermés, là, parce que ça fonctionne pas, là, l'hiver, là, puis quand la saison estivale est finie, ils s'en vont, ils s'en retournent, tu sais. Fait que, il y a une réalité aussi derrière ça. Puis au Québec, ben, je pense que tant aussi longtemps qu'il va y avoir des brewpubs, on va être correct. Puis en plus, c'est bon, parce que ça. Les gens vont connaître tranquillement, vont goûter, mais la distribution va être tough. Les tablettes sont pas extensibles, puis les bannières corporatives, ben, sont main dans la main avec les grands brasseurs parce qu'ils amènent de l'argent. Puis ils amènent maintenant des microbrasseries. Archibald.
Ouais.
Trou du Diable, cette gang-là. Fait qu'ils amènent une offre aux consommateurs qui sont de la microbrasserie.
Fait qu'ils puis ont un prix moindre aussi, j'imagine. Ils peuvent jouer sur les prix un peu plus aussi.
Ouais. Dans le cas d'Archibald, mettons, mais je pense pas Trou du Diable, t'allais jouer là-dedans. Mais Archibald, oui, t'allais jouer là-dedans. Mais c'est ça, c'est que nous on se bat pour aller chercher du froid le plus possible pour avoir une meilleure fraîcheur sur nos produits, mm-hmm. une meilleure expérience. Puis de l'autre côté, ben c'est ça, t'as toujours les grands joueurs qui veulent faire leur place, qui vendent plus, au complet, qui ont, tu sais, le prix est encore là, tu sais, une caisse de 12 mix à 13 ou 14 ou 15,99 versus un, tu sais,
deux bières à 13, 14.
Un peu monté vite, tu sais, mais c'est correct parce qu'il y a une clientèle qui est sensible à ça, mais il y a une clientèle qui veut boire de la bière pour se reposer la semaine. Fait que des fois, ils vont se gâter la fin de semaine, en acheter
ouais.
une petite quantité. Fait que c'est ça le combat qu'on va avoir, puis qu'il va falloir m'en aller se dire, ben, est-ce qu'on se rallie ensemble pour se pour se distribuer. Ça, c'était le plan de match d'André Dion il y a 25 ans, 30 ans aujourd'hui. C'était que tout le monde avait le même camion, puis on allait tout ensemble.
André Dion étant
fondateur de Unibo.
Unibo, ok. Ouais. J'étais pas là.
qui lui voulait justement rassembler tous les micros ensemble pour maximiser la distribution, parce que ça coûte cher la distribution. Fait que, puis ça permettait tout le monde d'aller au même point. Fait que ouais. là, ben, tu vois des distributeurs qui commencent à naître, Transbrew, Bucky, qui veulent justement distribuer plus de micros possible, puis permettre justement de maximiser, même si tu vends une caisse. Ben, tu vends ta caisse toi tout seul, là, te rendre à Montréal, vendre une caisse, c'est tough. Mais tu rembarques dans un camion de distribution qui va partout.
Ça, c'est plus simple.
C'est plus simple. Fait que, il y a des gros défis sur la distribution dans les prochaines années, puis il faut. Falloir c'est que les brasseurs qui veulent embarquer dans l'industriel pensent à ça. Comment ils vont sortir la tablette, puis comment ils vont rentrer sur la tablette aussi, là. Fait que. C'est ça le gros défi, je
te dis. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se part une brasserie demain matin, y a-tu un faux pas que t'as fait que t'aurais pas aimé ça, que t'aurais aimé éviter, puis t'aurais pu facilement éviter que t'as pas su?
Bonne question. Je te dirais, chacun son plan de vie. Tu sais, je veux dire, si t'as envie d'avoir une brasserie locale pour être une fierté locale, fais-le. Bon financement.
Bonne chance.
Non. Le bon financement. Prends le bon financement, puis surtout étudie bien le marché, puis comment tu peux te différencier du marché. Parce que c'est facile d'embarquer dans l'eau de « Ah, moi, je suis la bière de telle place. » Tu sais, c'est correct de dire « Moi, je suis la bière de telle ville au Québec. » Mais à un moment donné, ça prend plus que ça. Les gens sont très, 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 très sensibles à la qualité visuelle du produit, puis aussi la qualité intérieure du produit. Fait que, tu sais, tu peux sortir des bières qui sont pas bonnes, et qui sont super belles, mais qui sont pas bonnes. Fait que c'est comme super important. C'est comme un tout, là. Mm. Mais c'est ça. Ça prend un plan d'affaires qui est solide. Une différenciation. Faut que tu te différencies.
Peu importe l'entreprise, je pense. Ça, c'est...
T'as pas le choix. Puis essayer d'être innovateur. C'est ça qu'il faut. Moi, j'ai dérangé, puis je dérange encore, puis je vais déranger avec mon modèle itinérant. C'est sûr. Je dérange.
Ben, si les gens. Du moment que les gens en parlent, enfin, comme, connais-tu ce bonhomme-là?
Je dérange, puis pas parce qu'ils me connaissent pas, puis que. Tu sais, si on apprenait à se connaître, on pourrait tomber amis, tu sais.
C'est sûr,
mais
oui.
C'est juste que, en tant que brasseur itinérant, je dérange parce qu'il y en a d'autres qui investissent beaucoup d'argent dans leur projet. Puis, c'est ça, tu sais, ils veulent grandir le projet. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a tellement de brasseries, puis il y a de la capacité, à des moments précis dans l'année, il y a de la capacité de production. C'est pour ça, c'était mon plan de départ. Je vais aller chercher la capacité de production excédentaire des brasseries. Faire des collabos.
OK.
Te ramène à la réalité, là, tu sais.
Ouais. Puis y a-tu une épreuve, mettons, que tu as eu à vivre que tu t'attendais pas en tout?
Une épreuve.
Mais je veux dire, mettons, tu as investi, on va dire. Je sais pas combien coûte une bière en tant que telle.
Ben, des fois, faut que tu choisisses les bonnes bières que tu lances.
T'es-tu déjà trompé?
Ben, je me suis trompé, on s'est trompé, oui, oh, oui, puis c'est des fois de faire des bières, tu veux faire des bières qui te plaisent, parce que moi, j'étais un amateur de stout, puis je veux faire des stouts, puis ça sort moins au Québec, bref, ça sort moins qu'une bière blonde, une bière ambrée, ou, tu sais, blanche, whatever, fait que les stouts, Pour moi, c'est comme...
Mais c'est quoi? C'est-tu la couleur? C'est-tu le degré d'alcool qui fait que les gens...
C'est le buveur. C'est le buveur qui aime moins peut-être ce style de bière-là. La bière noire fait peur pour certaines personnes. Alors que c'est...
Des fois, on va penser...
Alors que c'est savoureux.
Plus qu'elle est claire, plus qu'elle est douce.
Ouais,
des fois, il y a...
Il y a ce thinking-là, mais quand tu analyses tout ça, je te dis, ben... C'est plate, mais tu t'empêches de faire certaines bières parce que tu sais que ça va peut-être moins sortir. Moi, j'avais pas de réseau de brewpub pour passer ma bière, tu sais. Fait que j'avais un réseau X de place, puis
des fois, ben, téléphone,
la demande est moindre, là, est moindre. Fait que, tu sais, puis là, en plus, ben, tu l'as chanfu, fait que tu l'as pas en bouteille ou en canette.
Pas l'essayer d'avance non plus.
Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est peut-être des fois ces petits freins-là ou ces petits enjeux-là, puis ben, pour tous les entrepreneurs, c'est toujours la même affaire, c'est la liquidité, le cash flow, qu'on appelle. C'est toujours un enjeu. C'est-à-dire, récolter l'argent, va-t-il en avoir assez pour payer tout le monde? Puis c'est important. T'sais. Moi, c'était très important pour moi de dire que tous mes fournisseurs, tous mes gens qui collaborent, que je dois des sous, je les paye en premier, puis moi, je me paye en dernier.
Commences-tu à te payer un peu?
Tranquillement.
Tranquillement.
Tranquillement. Il y a beaucoup d'investissements, fait que tu sais, tranquillement, mais c'est ça. C'est différent aujourd'hui, mais de dire que je vis comme un riche, pas du tout. Pas du tout. Je vis. De toute façon, ma perception a changé depuis que j'ai lancé le projet. J'ai beaucoup changé, moi, ma perception de la vie sur certaines choses, le matérialisme. Les besoins non nécessaires qu'on avait dans la vie, d'investir dans « Ah, ça me prend ci, ça me prend ça. » Non. Non. Je dis, moi, t'as des choses, t'as ce que t'as, sois heureux avec ce que t'as. Tu sais? Puis, dont les vêtements.
Dont les vêtements. Un chandail de loup.
Mon chandail de loup que j'ai lancé en janvier l'année passée. Avec
c'est ton chandail, OK.
Oui, ben, j'ai lancé la Groenland, qui est un loup, en fait, dessus. Fait que,
j'ai pas vu ça du tout.
Ben, je sais, il y en avait tellement peu que j'ai produit. On a fait un petit brassin.
Okay.
C'est parti très, très, très vite. Puis c'était une belle bière. Ça, faut que tu l'essayes. En février, elle va sortir cette année. Elle revient.
OK.
Fait que,
ça se trouve à être?
Une Black IPA. Bon, une IPA noire.
Mm-hmm.
Fait que, belle bière. Ça aussi...
C'est bon, ça tombe dans mon bac ces temps-ci, là.
Mais celle-là, écoute, en toute honnêteté, c'est une super belle bière. Fait que, bref, c'est ça. Changer un peu sa perception de la vie, de dire que, tu sais, t'as besoin de moins de choses que tu penses, puis vivre des aventures, vivre des voyages, vivre des trips avec ta gang, que ce soit ta famille ou tes amis, c'est plus important que...
Ça se peut qu'on soit pas là le mois prochain, pareil, là.
La vie n'attend
Life
pas.
Won't wait.
Ça finit super bien pas. Là-dessus.
Ouais. Ben écoute, si on veut t'encourager, il y a ton site internet.
Oui.
C'est vagabond.bière, je
non.
pense.
Ou... Non, c'est www.bièrevagabond.com.
OK.
Tu peux me trouver sur mon Facebook. J'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de temps sur l'outil de géolocalisation sur mes points de vente. Mais tu peux me trouver dans plusieurs points de vente. Donc,
Tout ce qui est épicerie spécialisée, d'habitude, ils vont t'avoir.
Exact.
Métro, je t'ai vu chez Métro.
Oui, Métro IGA dans certains endroits, pas partout, mais dans la plupart des endroits où est-ce qu'on mon distributeur va.
OK.
Mais c'est ça, dans plus de 700 points de vente, dans certains bars, restaurants aussi, tranquillement aussi on s'installe de ce côté-là, puis faut venir nous voir à la brasserie New Deal, puis je donne un scoop, mais brasserie New Deal va évoluer.
OK.
Vu qu'on bâtit un collectif, il y a une grosse annonce qui va se faire au mois de mars. Ce que je peux vous dire, c'est que le New Deal, la brasserie New Deal, le nom n'existera plus, va évoluer.
OK. On ne dira pas que c'est quoi.
Fait qu'en mars, on va t'attendre pour venir faire l'inauguration de ce qu'on va faire.
Yes.
Ça va tout changer.
All right. Ben, c'est sûr que je pense vous voir. All right. Bon, ben, Olivier Bouvrette, c'est un plaisir.
Ben, ça fait plaisir, moi aussi. Merci pour le café.
Écoute, il y en a un autre tantôt, si tu veux. Il y en a un autre tantôt. Fait qu'on se dit ciao, à la prochaine. Puis c'était un autre épisode de Sans Prétention qui se termine à l'instant avec Olivier Bouvrette, fondateur de Bière Vagabond.
Brasserie Vagabond. Vagabond, ça.
Vagabond, voilà. Ciao, à la prochaine. Fait que c'est tout.